Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio Audible. Polar, roman ou science-fiction, téléchargez et écoutez vos livres audio sur l'appareil de votre choix. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr.
15h-16h sur Europe 1.
Il n'y en a pas deux comme elle.
Marion Ruggieri.
Bonjour à tous et bonjour Ombline.
Bonjour Marion.
Qui exceptionnellement cet après-midi remplace Anissa. Bonjour et merci d'écouter Europe 1 pour un nouveau numéro d'Il n'y en a pas deux comme elle. Comment aider son enfant à réussir? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui jusqu'à 16h. Et la question que tous les parents au monde se posent. Comment l'aider, l'encourager, l'accompagner sans l'étouffer? Y a-t-il une recette miracle? On y répond avec une éminente spécialiste, Jeanne Ciot-Fachin, qui est dans les embouteillages et qui ne devrait pas tarder à arriver parce qu'effectivement ça roule très mal en ce moment. Dans le quartier d'Europe 1 qui est tout près des Invalides où avait lieu l'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. Jeanne Ciot-Fachin qui est psychologue clinicienne, psychothérapeute, fondatrice des centres Cogitos, spécialiste reconnue des surdoués. Elle est entre autres l'auteur de « Mais qu'est-ce qui l'empêche de réussir ?» aux éditions Odile Jacob. Et puis comme d'habitude, on attend vos témoignages sur le sujet. Quels sont vos moyens d'encourager vos enfants? Partagez-les avec nous, appelez-nous au 3921, le standard est ouvert. Et n'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook ou via Twitter, hashtag P2CE. On écoute vos commentaires et vos questions à la fin de l'émission. On commence par quelques chiffres. 69% des filles et 59% des garçons craignent l'échec scolaire à l'école. Le QI n'est prédictif de la réussite qu'à 50%. Une étude montre que les bons élèves deviendraient plus souvent victimes de dépression et d'angoisse, 12%, que les élèves au parcours scolaire chaotique, 8%, ça représente quand même une infime partie des élèves. Enfin, pour seulement 32% des parents, l'école doit servir à préparer le futur des enfants. Pour le reste, il s'agit surtout d'y acquérir un socle de culture générale. Et vous, quelle est votre recette pour aider vos enfants à réussir? On écoute vos réactions.
Déjà qu'il aille à l'école, déjà, et puis suivre son éducation pour pas qu'il finisse mal. Maintenant, si les parents ne donnent pas une bonne éducation, eh bien c'est terminé, quoi.
Bah, il faut l'accompagner et surtout être à l'écoute.
Dès le départ, il faut faire très attention, tracer un chemin à son enfant, expliquer lui que la vie n'est pas facile. Il faut respecter les autres pour qu'on se fasse respecter. Il faut imposer des règles aux enfants, donc, bien comme dès le départ.
Et participer l'enfant à la vie.
Faire confiance à l'enseignement public, d'être là à son écoute, de répondre à ses questions. Bah, oui, bien sûr, les valeurs sont importantes, oui, à transmettre. La politesse, le respect des autres, ne pas vivre dans le racisme, surtout pas.
Il faut aussi lui montrer de l'amour, lui prouver qu'on est là pour lui, plein de choses comme ça en fait.
Être attentif à la personnalité de l'enfant.
C'est déjà être très proche d'eux, leur donner une bonne éducation et leur apprendre les vraies valeurs de la vie. Leur apprendre qu'avant tout, on a des droits en France, mais on a d'abord des devoirs.
Je pense qu'un enfant, il a besoin d'exemple et d'accompagnement. Voilà, donc c'est le rôle des parents et puis de l'école dans un deuxième temps.
Jeanne Ciot-Fachin, bonjour, merci d'être avec nous. Reprenez votre souffle, tout va bien. Je vous ai présenté en début d'émission. Je rappelle, vous êtes psychologue clinicienne, donc psychothérapeute, spécialiste reconnue des surdoués. Et vous avez publié « Mais qu'est-ce qui l'empêche de réussir ?» aux éditions Odile Jacob. Alors, votre livre est une invitation à encourager les enfants, les féliciter, les mettre en avant. Est-ce que ça, c'est valable à tout âge déjà?
Oui, c'est valable à tout âge. Par exemple, je vous remercie beaucoup de votre bienveillance parce que j'ai réussi à arriver jusqu'au studio, ce qui n'a pas été facile. Ce qui n'a pas été facile. Et la réussite, c'est très important parce que quand on parle de réussite, on a vite tendance à focaliser l'attention sur l'école avec une forme de pression qui se met sur les épaules de tout le monde, des parents, bien évidemment, des enseignants aussi, et au milieu, un enfant qui souffre. Parce que tout le monde a envie de réussir. Vous faites un gâteau au chocolat, vous avez envie de le réussir. Vous faites un créneau, vous avez envie de le réussir. Vous faites une émission, vous avez envie de la réussir. Donc pourquoi les enfants seraient mis à part de cette envie de réussir dans le sens, non pas de la réussite académique, mais dans le sens de se sentir à sa juste place, satisfait de sa vie, et effectivement pouvoir repérer dans le regard des autres de la fierté, mais pas pour être dépendant de ce regard, parce que sinon on grandit en étant toujours dans l'attente de l'approbation des autres, mais pour pouvoir alimenter ses propres ressources ressources et se sentir fier de soi. Pas comme la grenouille qui voulait être aussi grosse que le bœuf, avec un ego surdimensionné. Bien sûr que non. Mais se sentir à la fois relié à ses forces, à ses ressources, et aussi accepter ses fragilités, ses faiblesses et sa vulnérabilité. Et c'est dans cet équilibre subtil qu'on permettra à nos enfants, et qu'on peut permettre à nos enfants au sens large, les enfants restent enfants très longtemps.
La preuve en est.
Mais de permettre à nos enfants de grandir bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur vie. Enfin, pour moi, c'est tellement important ça. Et cette notion de réussite, elle est vraiment associée à tout ça. Même si, il est évident que pour un enfant, le parcours scolaire fait partie de sa vie. Voilà. Et que bien sûr que d'être en réussite aussi à l'école, eh bien, on doit s'en préoccuper.
Alors, on va en reparler de l'école. Avant ça, vous dites de la même manière, les choses à éviter, ce sont les critiques négatives, les humiliations, dites-vous. Vous expliquez que ça sécrète une décharge de cortisol, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça. Et merci de souligner ce point, parce que ça me tient vraiment à cœur. C'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que on a vite tendance à dire « mais enfin, mais ça va pas », et à repérer les choses négatives. Mais vous savez pourquoi ? C'est parce qu'en fait, notre cerveau, il est toujours câblé comme à la préhistoire. C'est-à-dire qu'au fond du cerveau, on a l'amygdale qui va s'activer pour nous alerter qu'il existe des dangers. Comme si notre survie en dépendait à chaque instant. Alors, bien sûr et malheureusement, ce qui s'est passé là récemment peut nous faire activer un peu plus cette amygdale. Mais ce qui est très important, c'est que dès qu'on fait des critiques, par exemple, à un enfant, on lui dit « tu ceci, tu cela, tu n'as pas fait ceci bien, etc. » C'est comme, sans s'en rendre compte, on appuyait sur un petit bouton et on déclenche une espèce de production incroyable de ce fameux cortisol que vous évoquiez, qui est l'hormone du stress et qui est un véritable poison toxique pour notre cerveau parce que ça attaque. C'est comme l'eau avec le fer, vous voyez, ça rouille.
Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut jamais critiquer ses enfants ?
Pas du tout.
Bon, d'accord.
Non, bien sûr. Mais ce qui est très important, en revanche, c'est cette notion de renforcement positif, qui est un mot de psy pour dire un truc très simple, c'est de les féliciter. Parce que quand on félicite, à l'inverse, ça déclenche de l'endorphine et de l'ocytocine. Et que ça, c'est quelque chose qui nous alimente. Et il faut jamais faire, par exemple, vous savez, quand on dit à un enfant « Ah, mais c'est bien, tu as mis tes chaussettes dans le panier de linge sale, mais quand même, tu aurais pu au moins ranger ta chambre. » Dans la première partie de la phrase, « Tout va bien, on déclenche des endorphines et de l'ocytocine. » Au moment où on dit le « mais », on envoie du cortisol en masse et qui balaye tout le bénéfice de l'ocytocine. Donc
il faut le dire comment alors ?
Quand on félicite et on en reste là. Et à un autre moment, on peut dire, tu sais, là quand même, pour moi, quand tu as ce comportement, c'est-à-dire jamais attaquer l'identité de l'enfant en lui disant tu es ceci ou tu n'es pas cela, mais en disant ton comportement ne m'est pas agréable ou je ne suis pas d'accord avec ton comportement. Parce qu'une critique ne permet jamais de modifier un comportement, permet simplement de manifester sa désapprobation, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc toujours séparer les félicitations d'une part, et on y va à fond, parce que c'est comme ça que l'enfant aura envie de reproduire ce qui va bien.
Alors, dans un instant, on va parler de l'échec et la spirale de l'échec scolaire que vous avez déjà évoqué, comment l'enrayer. Juste après, apprendre à voler, Learning to Fly de Tom Petty. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. 15h, 16h.
Il n'y en a pas deux comme elle.
Et nous tentons de répondre à cette question, comment aider son enfant à réussir, l'accompagner, et notamment dans son parcours scolaire, avec vous Marion Ruggieri, votre invitée.
La psychologue Jeanne Ciot-Fachin, auteure entre autres de « Mais qu'est-ce qui l'empêche de réussir ?» aux éditions Odile Jacob. Alors vous dites que lorsque l'enfant est confronté à l'échec scolaire, ça peut entraîner chez lui tout un tas de conséquences, par exemple des troubles de la socialisation, une démotivation, des troubles psychologiques, des troubles de l'estime de soi, qui évidemment vont nourrir encore l'échec scolaire. Alors, comment éviter cet engrenage ? Comment déceler reconnaître les éventuels troubles ?
Alors, il me semble que l'attitude essentielle à avoir, quelle que soit notre place d'adulte bienveillant autour de l'enfant, c'est de pouvoir se dire que chaque fois qu'un enfant est en échec, c'est un enfant qui souffre et qui a besoin d'aide. et que plutôt que de l'accabler et de lui mettre sur le dos notre propre inquiétude, parce que c'est ça qui se passe, de pouvoir s'arrêter un instant et lui dire « Ok, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui se passe ?» Et puis si on peut pas dénouer la difficulté comme ça ensemble, ou en allant voir les profs, l'école, etc., de pouvoir vraiment se poser pour comprendre la nature des difficultés. Parce qu'un enfant qui est en échec, c'est un enfant pour lequel qui a besoin d'aide et qui a besoin qu'on pose sur lui un regard éclairé, c'est-à-dire par exemple qu'on puisse faire un bilan, qu'on puisse aller explorer ce qu'il en est de son fonctionnement intellectuel, cognitif, pour essayer de repérer un éventuel grain de sable qui va venir se mettre dans le rouage et qui va empêcher l'enfant d'avancer. Alors ça peut être des troubles dans, vous savez, toute cette grande famille du club des 10, hein, la dyslexie, la dyspraxie, qui est une difficulté à passer à l'écrit, entre autres, à organiser son travail, la dyscalculie, la dysorthographie. Hein, donc il y a tout ce grand club des 10. Il y a ce trouble à la mode qui est le TDAH, qui est ce fameux trouble de l'attention, hein, que à la fois on ne diagnostique pas assez et en même temps trop souvent.
Hein, c'est pas facile.
Non, c'est pas facile, mais parce que vraiment c'est des questions de posture théorico-clinique des professionnels. Donc effectivement,
dans ces cas-là, il faut vraiment aller voir un pédopsychiatre.
Oui, il faut vraiment aller voir un professionnel, parce que effectivement un authentique trouble de l'attention, eh bien comme son nom l'indique, empêche l'enfant d'être concentré de façon neurophysiologique, hein, c'est-à-dire que c'est pas parce que il est casse-pied, c'est pas parce que vous parliez de motivation, pas parce qu'il est pas motivé, etc. Mais donc c'est important de savoir tout ça. Donc d'aller vraiment repérer de quoi il s'agit pour pouvoir mettre en place l'aide et l'accompagnement qui sera précisément adapté à cet enfant-là, à ce moment-là de son parcours. Peut-être aussi qu'en faisant ce bilan, on se rendra compte que c'est plutôt du côté affectif et de la dynamique émotionnelle que cet enfant est perturbé, qu'effectivement il y a un problème de confiance en soi, d'estime de soi, peut-être un enfant triste, trop anxieux, avec un stress un peu envahissant et ce fameux cortisol dont nous parlions, et que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faudra accompagner l'enfant. Moi, je suis vraiment très pour le fait de faire une carte du territoire pour savoir comment avancer et puis comment aussi repérer où sont les ressources de l'enfant qui vont nous servir de point d'appui et de levier, mais aussi les forêts sombres dans lesquelles il faudra les tailler à la hache pour avancer, les champs en friche, les champs bien cultivés, etc. Ça me semble vraiment important d'avoir cette posture de « Ok, l'enfant est en réelle difficulté, on essaye de comprendre pour pouvoir aider efficacement. »
Alors vous dites que les tests de QI sont une bonne chose, hein, de quotient intellectuel, qu'il faut les faire, même si évidemment ça n'est pas tout.
Mais c'est-à-dire que oui, dans le sens où on ne cherche pas à avoir un QI, à déterminer un QI, on cherche à comprendre les mécanismes et les processus avec lesquels l'enfant active son intelligence.
Donc d'accord, effectivement, savoir, comme vous dites, où sont ses points forts et ses points faibles. Vous répondez à cette question dans votre livre. Un enfant naît-il intelligent ou le devient-il ?
Les deux.
Les deux, d'accord, donc il n'y a pas de cas désespéré.
Jamais
dire. Un enfant peut se développer, son intelligence peut se travailler, et de la même manière, si elle n'est pas fertilisée, elle peut s'appauvrir.
Oui, et puis surtout, ça me donne l'occasion de dire quelque chose de très important, c'est que l'estime de soi est un bien meilleur prédicteur de la réussite scolaire qu'un QI élevé. Hein, donc c'est l'estime de soi le vrai levier, beaucoup plus que l'intelligence, qui forcément est une espèce d'alchimie entre les compétences avec lesquelles on vient au monde et la rencontre avec l'environnement.
Et donc cette estime de soi, elle vient de la motivation qu'on peut donner aux enfants, d'objectifs
C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, puisque l'estime de soi, c'est vraiment, elle se nourrit de cette notion de confiance en soi. La confiance en soi, étymologiquement, ça veut dire avoir foi en soi, c'est-à-dire pouvoir pleinement ressentir qu'on a en soi les compétences nécessaires pour pouvoir avancer dans la vie en général. Et ça, c'est quelque chose qui s'alimente dès la toute petite enfance, avec tous les liens d'attachement affectif qu'on va pouvoir tisser avec ce qu'on appelle en psychologie ces figures d'attachement, hein, qui sont en général les parents ou tout adulte qui va prendre soin de l'enfant et qui va permettre à l'enfant justement de grandir à la fois dans ses parties lumineuses tout en acceptant ces parties plus sombres. Et c'est ça, c'est cette alchimie-là. Et puis après, on va pouvoir renforcer cette estime de soi, comme on le disait à l'instant, en repérant le plus possible ce qui fonctionne bien, plutôt que de passer notre temps à aller montrer du doigt ce qui ne va pas, ce qui est vraiment une habitude d'éducation qu'il serait tellement formidable d'oublier.
Eh bien alors justement, dans un instant, on va parler des parents. Arrêtez de culpabiliser. Juste après, le billet de Benjamin Muller qui lui va nous parler du modèle américain qui va plus dans ce que, vers ce que vous évoquiez à l'instant. A tout de suite sur Europe 1.
Il n'y en a pas deux comme elle.
De 15h à 16h sur Europe 1.
À l'école, tout au long de ses études dans la vie, on se demande comment aider son enfant à réussir cet après-midi sur Europe 1 avec vous, Marion Ruggieri. Et n'hésitez pas à réagir au standard d'Europe 1. Vous pouvez nous appeler le 39 21, 50 centimes la minute sur europe1.fr ou via Twitter, hashtag P2CE.
Et puis nous accueillons Benjamin Muller. Bonjour Benjamin.
Bonjour Marion. Bonjour.
Alors, vous nous parlez du modèle américain, très différent du nôtre justement.
Oui, c'est un peu la partie qui m'a le plus intéressée dans votre livre. C'est celle que vous avez évoquée en début d'émission, celle où vous dites qu'il faut absolument savoir encourager ses enfants, les encourager, les féliciter, les mettre en avant, en clair, leur donner confiance. Je me souviens que quand j'étais petit, je faisais du handball dans un club et un papa qui nous accompagnait toujours au match passait son temps à hurler sur son fils « t'es nul, t'es une merde », etc. Et à l'époque, je me disais « tiens, c'est original comme méthode d'éducation » et je me rends compte que donc visiblement, c'est pas la meilleure méthode. Je suis rassuré. Mais néanmoins, j'aimerais avoir votre avis sur une chose. Est-ce qu'on a pas trop... Est-ce qu'à trop féliciter nos enfants, on ne risque pas de les faire devenir des petites crapules? Et donc, je vais vous raconter cette petite anecdote personnelle. Cet été, j'étais aux États-Unis en famille avec mes deux enfants. On a vécu pendant 15 jours chez une famille, peu importe où, mais on va dire dans la vraie campagne américaine, loin de New York. Là-bas, on capte pas CNN, les gens mangent n'importe comment, roulent avec la clim, fenêtre ouverte. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'Amérique profonde. Alors les gens là-bas sont adorables et là-bas, c'est très clair, tout est tourné vers l'enfant. Vous allez dans la moindre petite ville, vous avez tout un tas de bibliothèques, de ludothèques, de vidéothèques. Dans les restos, il y a plus de chaises bébés que de chaises normales, etc., etc. Ça, c'est pour avoir une idée du cadre. Donc le plus frappant, c'est au niveau même de l'éducation. J'ai appelé ça le syndrome good job, beau boulot. Les enfants, dès leur tout premier âge, peu importe ce qu'ils font, leurs parents s'enthousiasmeront toujours d'un good job. Tout est prétexte à recevoir un good job. Le petit Andy ouvre un livre, good job Andy. Le petit Andy mange du raisin tout seul, good job Andy. Même si Andy a 6 ans et qu'il n'y a rien de révolutionnaire à manger du raisin tout seul. Andy sourit, good job Andy, etc., etc. Et plus surprenant, dans l'apprentissage de la politesse, en France, par exemple à table, vos enfants vous demandent: est-ce que tu peux me couper du fromage? On leur répond: j'ai pas compris, s'il te...
Oui.
S'il te plaît. Bien là-bas, non,
le
on leur répond: you want some cheese? Good job, Andy. Oui. Et jamais de please, de quoi que ce soit. C'est une caricature.
Mais tout ça, ils sont obèses.
Tout ça est vrai. Mais il y a sans doute un lien de cause à effet.
Je caricature, évidemment.
Alors certes, le petit Andy, il a très confiance en lui, c'est frappant, mais à côté de ça, le petit Andy, disons les choses clairement, il est insupportable, incapable de dire merci, s'il te plaît, bonjour, au revoir, il demande tout, tout le temps, à table, il n'y a aucune règle, il se lève, il s'assoit, joue avec la nourriture, et personne ne dit rien, bref, il n'a aucun cadre, et son socle d'éducation se limite à ces deux mots. Good job. Alors moi, du coup, avec mes enfants, j'ai essayé de prendre ce qu'il y avait de bon là-dedans, quand même pas mal d'encourager, mais justement, moi, je voulais vous poser cette question sur le cadre. Il y a quand même une limite à mettre
bon,
dans l'encouragement perpétuel.
Benjamin, good job.
Thanks a lot.
Good job, Benjamin. Alors moi, si je suis une vraie mère, donc, et que j'ai pas bien écouté Jeanne-Sio Fachin, je dirais oui, mais attention, vous avez quand même bafouillé une ou deux fois, ce qui là casse tout l'effet de la chronique.
Mais vous ne m'avez pas critiqué dans mon ensemble, donc ça va. Je reste debout.
Dans votre lancée. Mais Jeanne-Sio Fachin, vous en pensez quoi de ce modèle-là?
Moi, j'en pense que c'est une très jolie caricature et très réelle dans certaines familles, effectivement, mais y compris dans certaines familles françaises isolées. Et que je pense que votre petit Andy, qui me touche beaucoup finalement, a profondément pas confiance en lui précisément. Parce que quand on est dans cette espèce d'excès, on n'est pas sincère dans ce qu'on transmet, ce que l'on dit. C'est-à-dire que ça devient une espèce de mantra qui ne s'accroche à rien. Donc on ne fait pas attention à ce petit Andy. On ne se préoccupe pas vraiment de ce petit Andy. On applique de façon peut-être un peu idiote ou en tout cas automatique cette espèce de félicitation à outrance, comme si effectivement ça nous exonérait d'être vraiment présent à nos enfants et d'être vraiment attentif à eux. Et être attentif à nos enfants, c'est aussi pouvoir leur dire non, parce que dire non à un enfant, c'est un acte d'amour.
Merci Benjamin, j'adore cette phrase. Dans un instant, on va justement parler des parents, comment être un parent heureux, comment arrêter de culpabiliser. C'est juste après Ton visage des Frérots de la Vega. À tout de suite sur Europe 1.
15h-16h sur Europe 1.
Il n'y en a pas deux comme elle.
Et avec cette question que tous les parents du monde doivent se poser, comment aider son enfant à réussir, comment l'accompagner, Marion?
Et on y répond avec la psychologue Jeanne-Sio Fachin, auteure de « Mais qu'est-ce qui l'empêche de réussir ?» aux éditions Odile Jacob. Alors vous citez cette phrase d'un petit garçon, Benoît, qui a 6 ans. Il vous dit « Les enfants font ce qu'ils veulent, les parents font ce qu'ils peuvent ». Il est très malin ce petit garçon, mais est-ce vrai?
Mais je crois que oui, qu'on fait ce qu'on peut quand on est parent, parce que on est quand même, c'est compliqué d'être parent. Enfin, c'est objectivement très compliqué. Et puis je trouve que quand même, on leur en met beaucoup sur le dos aux parents qui finissent par passer leur vie à se sentir coupables de tout, avec tous ces psys qui ont toujours des avis et qui l'un dit quelque chose, l'autre dit autre chose.
Alors justement, vous vous dites halte à la culpabilisation abusive. Vous trouvez que les parents ont tendance en fait à s'attribuer la responsabilité de toutes les difficultés de leurs enfants, en gros.
Oui, c'est-à-dire que surtout on leur met cette responsabilité, donc ils finissent par y croire et à penser qu'ils sont responsables de tout, hein, comme les mamans qui arrivent dans mon cabinet et qui me disent « Vous venez déjà vous voir parce que Juliette est angoissée, mais bon, je sais, hein, c'est à cause de moi, hein, parce que je suis tellement angoissée. Ben, peut-être qu'on va s'occuper de Juliette et puis peut-être qu'on va s'occuper de votre anxiété à vous et peut-être que bien sûr qu'il y a des vases communicants, mais c'est pas non plus une espèce de fatalité. »
Ça, c'est de la culpabilité ou c'est de la toute-puissance? Ça, c'est se dire « finalement, elle me ressemble, finalement, la pomme tombe pas loin de l'arbre » ou c'est...
Un petit peu des deux, mais l'expérience montre que c'est quand même plutôt du côté de la culpabilité. C'est-à-dire, c'est la sensation que finalement, on devient responsable des problèmes que nos enfants ont. Et que c'est important de remettre l'enfant dans son propre parcours et sur son propre territoire.
Oui, l'enfant est différent
du
parent.
Et puis de rassurer le parent. Moi, je trouve que les enfants ont besoin d'aide, incontestablement. Mais les parents aussi, c'est hyper compliqué d'être parent aujourd'hui. Parce qu'avant, on reproduisait bêtement et sans réfléchir le modèle de nos parents. Et puis après, il y a eu toute une phase où on faisait exactement l'inverse de nos parents, mais ce qui est exactement la même chose, parce que on était toujours en référence à un modèle. Et aujourd'hui, on est dans un système où chaque famille, chaque parent doit réinventer sa façon d'être parent sans personne sur lequel s'appuyer. Il y a toujours une copine qui dira un truc, une autre qui dira autre chose, un bouquin de psy qui dira un truc, un bouquin de psy qui dira autre chose. Et puis, il n'y a plus non plus tout l'encadrement, et je vais le dire, tout l'encadrement religieux, les prêtres, les imams, les rabbins, qui étaient aussi des références.
Des relais
à qui on demandait, des
et
personnes
avec
de confiance.
Des rituels, de passage.
Voilà. Aujourd'hui, les parents sont très seuls. Et moi, vraiment, ce que je dis toujours aux parents, c'est posez-vous et essayez de ressentir au fond de vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous pensez que c'est pour vous bien de dire oui ou de dire non à votre enfant? Qu'est-ce que vous ressentez? De renouer avec cette espèce de bon sens qu'on a tous, mais qu'on finit par oublier parce qu'on passe beaucoup par le mental et par la rationalisation, et revenir à soi et à ses sensations. Je dis non parce que je le sens comme ça. Je dis oui parce que je le sens comme ça. Et sûrement, je me trompe un peu, mais c'est ce que je sens à ce moment-là, et donc je suis moi en tant que parent sur mon territoire de sécurité, et en étant sur mon territoire de sécurité, je transmets de la sécurité affective à mon enfant et je le rassure quoi qu'il arrive.
Oui, vous dites qu'il faut arrêter de vouloir être un parent parfait et vous donner entre autres ces trois conseils que j'ai notés. Faites ce que vous croyez être le mieux pour vos enfants, ce que vous venez de dire, avoir de la bienveillance pour eux et ne croyez pas que vous êtes responsable de tout. Tout le temps. Autrement dit, l'enfant est différent des parents. Il ne faut pas croire que vos défauts vont devenir les leurs.
Oui, je rajouterais juste et de la bienveillance pour soi en tant que parent aussi.
Et alors, on en parle rarement, mais vous évoquez aussi ces cas d'enfants caméléons, c'est-à-dire des enfants qui ne vivent et fonctionnent qu'en fonction de ce que l'on attend d'eux. Il y en a beaucoup des enfants comme ça.
Alors, il y a surtout des filles. Hein, les filles sont des grandes spécialistes, alors je ne sais pas si on dit caméléon, mais en tout cas les filles effectivement, quand un enfant a des difficultés par exemple à l'école, les troubles des garçons sont toujours plus bruyants et donc les garçons se font repérer beaucoup plus vite. Et même si on est en 2015, les parents s'inquiéteront toujours plus vite pour un garçon, avec quand même toujours cette idée dans la tête qu'il faut absolument qu'un garçon réussisse et prenne en charge sa famille, et qu'une fille, c'est peut-être moins important la réussite. Et ça reste encore, moi je me souviens, une maman qui est arrivée dans mon bureau avec une jeune adolescente et qui me dit, vous comprenez madame, j'ai dit à ma fille, quand même il faut absolument que tu te débrouilles pour réussir, même pour une fille c'est important. Hein, et c'était récemment, tout ça. Et donc les petites filles, qui ont de beaucoup plus grandes capacités d'adaptation, font en sorte de se fondre dans la masse et essayer de se dire qu'en étant au mieux comme elles pensent que les autres voudraient qu'elles soient, donc en s'ajustant à ce qu'elles comprennent des attentes des autres, eh bien elles deviendront beaucoup plus aimées, beaucoup plus aimables, et qu'elles feront plaisir à leur maman, à leur papa, à leur maîtresse. Et... Sauf qu'il y a un vrai risque là, parce que les filles qui grandissent comme ça, elles grandissent avec un faux self, cette terminologie psychologique qui veut dire on grandit avec un masque et une personnalité qui n'est pas la nôtre.
Mais donc Caméléon, un peu des éligues en puissance, enfin des...
Oui, c'est-à-dire que après la difficulté, c'est que à l'adolescence, souvent, ce sont des jeunes filles qui sont écartelées entre leurs valeurs propres et ce qu'elles sont vraiment, et cette espèce de masque et de carapace qu'elles se sont construites avec les ans. Et il faut faire un peu attention. Alors, je suis pas en train de dire que dès qu'une fille va bien à l'école, il faut vite s'inquiéter. Bien sûr que non, hein. C'est pas du tout mon propos. Mais effectivement, c'est important, les enfants caméléons.
Et Zelig, c'est ce fameux personnage de Woody Allen, je le dis parce que c'est pas forcément connu, qui se mêle partout, qui est un caméléon et qui disparaît dans tous les environnements qu'il côtoie. Juste une dernière petite question pour les parents d'adolescents, dont on n'a pas parlé. Ce fameux adolescent qui se lève à 14 heures quand il n'a pas cours, qui passe son temps devant ses écrans. Est-ce que là, c'est un cas désespéré ou est-ce que c'est simplement un adolescent et qui a peut-être besoin aussi de motivation, de but, d'objectifs communs? Voilà, un mot pour cela.
Alors, à l'adolescence, toutes les cartes se rejouent. Donc, on peut avoir une adolescence difficile et être un adulte qui va bien. Et à l'adolescence, effectivement, on le sait, hein, ne serait-ce que sur un plan neurophysiologique, les ados ont plus besoin de sommeil. Ils ont plus besoin de traîner, ils ont besoin aussi de tester leur toute puissance, et ça les jeux vidéo leur apportent, hein, parce qu'à l'école ils sont pas forcément des caïds qui conquièrent des tas de territoires, alors que sur leurs jeux vidéo peut-être que oui. Qu'un ado qui joue énormément aux jeux vidéo, c'est peut-être aussi un ado qui se sent relativement impuissant dans sa vraie vie et qui va chercher une espèce de forme d'adrénaline et donc de motivation dans les jeux vidéo. Et ça aussi, c'est pas tellement le jeu vidéo qui est un problème, c'est le fait de se réfugier là-dedans qui doit interroger le parent sur qu'est-ce qui se joue pour mon enfant à ce moment-là et de quoi cet enfant a besoin pour qu'il puisse retrouver une motivation dans sa vraie vie pour être relancé dans sa dynamique.
Et ça, le fait qu'il soit, qu'il puisse paraître relativement flemmard, en fait, c'est pas une fatalité. Il n'y a pas d'enfant ou d'adolescent paresseux. Alors, c'est plus une...
De toute façon, d'une façon générale, merci de parler de ça. Parce que Marion, voilà un scoop définitif. Il n'existe pas d'enfant paresseux. Ça n'existe pas. Et ça, pour une fois. Tous les psys de mon espèce sont d'accord. Ça n'existe pas. Parce qu'en fait, quand on est paresseux, ça veut dire qu'on n'est pas motivé. Et le moteur de la motivation, c'est quoi? C'est une question, Marion. C'est quoi le moteur de la motivation?
Ça, c'est pas les parents quand même, si?
Non, non. Pour avoir envie de réussir, qu'est-ce qu'il faut?
Une ambition?
Réussir, c'est quand on a réussi un truc, quoi que ce soit, qu'à ce moment-là, on ressent cette
donc
jubilation
la réussite.
Intense, exactement.
Et, il faut déjà l'avoir eu en bouche.
Exactement. Et je préfère 100 fois de parler de goût de la réussite, le goût de la réussite, que ce fameux goût de l'effort, parce que je voudrais bien rencontrer une personne au monde qui a le goût de l'effort.
Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir tout ce que vous dites. Et vous, qu'en pensez-vous, vous qui nous écoutez? Quel genre de parent êtes-vous? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec vos enfants ou pas? Si oui, comment les avez-vous réglés? Comment vous les encouragez? On écoute vos témoignages, vos réactions, vos questions au 3921 sur la page Facebook de l'émission et via Twitter hashtag P2CE. Mais d'abord, on écoute Here Comes the Hot Stepper, ça faisait longtemps, Dini Camosé sur Europe 1. So we do it, man.
extrait de la compilation Top 50 volume 3, Inika Mose avec Here Come the Hot Stepper. Après deux premiers volumes, le Top 50 revient avec les années 1994-2004 et le spectacle Top 50 partait en live en tournée à partir de février 2016 avec Europe 1 sur scène, notamment partenaires particuliers Zouk Machine ou encore les Natives. Il n'y en a pas deux comme elle, revient dans un instant sur Europe 1 avec vos questions, vos réactions à propos de cette question. Comment aider nos enfants à réussir? À tout de suite avec Marion Ruggieri sur Europe 1.
Il n'y en a pas deux comme elle.
De 15h à 16h sur Europe 1.
Et cette question, comment aider son enfant à réussir? Nous tentons d'y répondre avec vous, Marion Ruggieri, et avec vos questions, les auditeurs, il n'y en a pas deux comme vous.
Mais avant d'écouter vos questions, on écoute cet extrait du petit Nicolas, réalisé par Laurent Tirard, en plein échec scolaire.
Clotaire, qu'est-ce que je viens de dire?
Clotaire, c'est le dernier de la classe. L'échafaud.
Et qu'est-ce que c'est qu'un échafaud?
Bah, c'est pour faire de l'eau chaude. Quand on l'interroge, il est toujours puni et privé de récréation. Quand il ramène son carnet, il est privé de télévision et de dessert. Et quand le directeur le gronde, il dit...
Vos parents se privent de tout pour vous donner une éducation, petit ingrat.
Eh les gars, vous savez...
Eudes, il nous a dit que plus tard, il voulait faire bandit.
Il veut faire bandit?
C'est pas un métier, ça, bandit.
Si, c'est un métier. Parce que s'il n'y avait pas de bandit, il n'y aurait pas de policier. Et ton père, il n'aurait pas de travail et t'habiterais dans une cabane.
Mais pas de pouvoir.
Oui, parfaitement, dans une cabane toute pourrie.
Et voilà, c'était le petit Nicolas. Alors maintenant, vos réactions. D'abord sur Twitter, Sophie qui nous dit « Selon moi, un seul mot compte, la confiance. Un enfant à qui on a transmis la confiance en soi sera toujours plus fort adulte. » Une réaction aussi de Xavier Laplace qui nous dit « Un enfant en difficulté a besoin de clés pour comprendre, mais son parent tuteur de clés pour faire comprendre. » La Trubitch qui dit « Est-ce que l'art de la bonne éducation, c'est aussi et surtout ne jamais se contredire devant les enfants ? » Vous êtes d'accord avec ça ?
Il y a effectivement des clés, puisqu'on parlait de clés, et c'est la clé des 3 C, cohérence, consistance, clarté.
Bon, ben voilà une réponse claire. En tous les cas, via Europe1.fr, nous avons Corinne qui nous dit « Vous avez peu parlé du rôle des profs parce que eux aussi peuvent encourager, élever, aider nos enfants ou au contraire les démolir. » Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, bien sûr. Et puis, il faut arrêter de penser que les profs n'ont pas le droit d'avoir des liens affectifs avec leurs élèves. Les profs ont le droit d'aimer leurs élèves et c'est ça qui change tout.
Alors aussi une question de Simon via Europe1.fr qui nous dit « J'ai l'impression de toujours dire non à mes enfants, est-ce grave ?» Alors là, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour ça que ça me fait très plaisir. Dites-nous votre théorie.
Je pense qu'il faut toujours répondre oui. C'est-à-dire que quand on dit oui, ça permet à l'autre d'entendre ce qu'on a besoin de dire. C'est-à-dire, par exemple, qu'on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que, par exemple, si on dit à un enfant qui dit « je ne veux pas me laver les dents » et qu'on lui dit...
Et qu'on lui dit
« mais non, mais tu sais que blablabla bla, », bla, 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 on peut lui dire « oui ». Je comprends que là, tu n'aies pas envie de te laver les dents, mais néanmoins, patali, pala. Et à ce moment-là...
Ça marche pour tout. Donc, les dessins animés, je veux des frites, je veux...
Oui, parce que quand on dit non, on ferme la possibilité à l'autre d'être dans l'écoute de ce qu'on a besoin de dire et on le rétracte et il est déjà sur la défensive et il est déjà en train d'affûter ses arguments pour venir contredire votre interdiction. Donc, on dit d'abord oui et après, on dit ce qu'on veut.
Comme dans la vie, quoi.
Comme si dans la vie.
Sur Twitter, Gébrice nous dit « Malheureusement, beaucoup de parents confient leurs gamins à des CMPP ou autres sociétés. » Vous pouvez nous dire en deux mots de quoi il s'agit ?
Les CMPP, ce sont les centres médico-psychopédagogiques, qui sont des centres d'accueil et de soins psychologiques et donc pédagogiques qui dépendent des hôpitaux, dans lesquels il y a des équipes, des psychiatres, des psychologues, des psychomotriciens, des ergothérapeutes. Donc, je ne suis pas très sûre de bien comprendre la question, parce que ce sont des structures de soins qui existent et qui peuvent aider les parents et les enfants dans un certain nombre de cas, pas dans tous bien évidemment.
Et puis j'aimerais terminer cette émission par deux témoignages qui nous sont arrivés au Standard d'Europe 1. Celui de Christophe, 40 ans, qui nous appelle de Haubourdin et qui nous a dit « Je pense que c'est aux parents de montrer le chemin à leurs enfants. Moi-même, lorsque j'étais plus jeune, mon père m'a rabaissé. Cela peut entraîner des problèmes de confiance en soi. J'en ai même fait une dépression. La boucle est un peu bouclée avec ce que nous disait cette auditrice. Vous pensez, le maître mot, c'est la confiance.
Oui, c'est la confiance, mais la confiance aussi que pour les parents, c'est-à-dire que c'est important pour les parents d'avoir confiance dans ce qu'ils sont, dans leur rôle de parents, d'avoir confiance dans la vie, d'avoir confiance dans leurs enfants, d'avoir confiance dans l'avenir d'une façon générale, parce que en fait, les enfants sont des éponges et qu'un des meilleurs prédicteurs pour la réussite de l'enfant, la réussite au sens large, c'est le plaisir à vivre de ses parents.
Merci, merci beaucoup Jeanne-Sio Fachin, merci d'avoir été avec nous. Il y a encore beaucoup de questions, donc il faudra refaire une émission, il faudra que vous reveniez.
Avec plaisir, avec plaisir.
En retard, si vous le voulez. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cet excellent livre qui s'appelle « Mais qu'est-ce qui l'empêche de réussir ?» Vraiment, c'est passionnant, c'est aux éditions Odile Jacob. Et je dis ça pour nos éditeurs, notamment ceux qu'on n'a pas réussi à prendre, comme Jean par exemple, qui nous parle du cas de son petit garçon. Merci encore, on se retrouve nous lundi, 2, 3, 4, il n'y en a pas deux comme elle, pour une spéciale Resto du cœur. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end, mais d'abord un excellent après-midi avec Cyril Hanouna. Cyril, c'est à vous.
Marion, dans un instant, on va se retrouver avec toute l'équipe des pieds dans le plat. Bien sûr, il y a toujours l'ABC Quiz qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Il y a une somme folle à gagner puisqu'il y a 800 euros. Et puis, bien sûr, il y a toute l'équipe qui est bien, bien agitée. On aura un invité aussi. On a Thomas Njijol qui va venir nous voir dès 17h30, qui va poser la question con à Thomas Njijol. On le saura dans un instant sur Europe 1. Tout de suite.
À tout de suite, Cyril.